C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. I still have a
dream. Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, C'est pas pour dire nous emmène en voyage à Montréal. À l'occasion d'une manifestation organisée par le RCQ, regroupement du conte au Québec, Karine Mazel et Angèle Goduchaud ont été invités à discourir sur le thème des enjeux contemporains du conte. Elles sont parties avec un micro et ont profité du voyage pour interviewer quelques personnes. Et ça commence par une discussion dans un magnifique restaurant de couscous où Mo Carpels, directeur du RCQ, a emmené les deux conteuses.
C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Très fine cette semoule.
Ah ouais, non mais vous allez goûter, c'est super. Ici.
Bah déjà, ça sent bon. Hein. Ouais.
On va goûter le couscous québécois.
Non, non, non. Tu m'arrêtes ici. Ça. Tout de suite. Et là, on est. Hein, c'est le top du top.
Ça a l'air pas mal du tout.
Oh, c'est parfumé, c'est génial.
C'est bon, hein? Hein? Ah non, là, là, je veux. Je l'amène pas dans un truc foireux. Hein.
Mo Carpels n'avait pas très envie d'être interviewé, mais avait quand même dit « Prends ton micro, hein, on verra si ça se présente ». Alors, Angèle a posé son micro entre l'épaule d'agneau, la semoule, les légumes, la harissa et la langue de bœuf. Entretien avec Mo Carpels, directeur du regroupement du conte au Québec. Autour de la table, Karine Mazel et Angèle Goduchaud.
Est-ce que tu as remarqué que j'ai allumé
mon... Non, pas du tout.
Bah, je l'ai allumé. Bonjour, registre. Mo Carpels, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va toujours bien.
Est-ce que je peux rapprocher le micro un peu ?
Bah, si tu veux. Ouais. Voilà. Comme j'ai vu que tu ne m'as pas demandé mon avis et que tu m'enregistres.
C'est ça. Tu fais quoi, toi, dans la vie ?
Mais d'après toi. En fait, tu m'enregistres juste pour une seule et bonne et simple raison, c'est que je suis directeur du regroupement du conte au Québec.
Regroupement du conte au Québec, c'est quoi, ça ?
Ben, en fait, par rapport à la France, c'est assez rigolo parce que je vois que tu as le RNCAP, tu as les compteurs. En fait, le RCQ, regroupement du compte au Québec, rassemble tout le monde, les structures, comme les compteurs et les compteuses individuelles. Voilà, c'est ça.
D'accord. Et donc, toi, tu es directeur de ce truc ?
Ouais.
Tu viens du cirque, c'est ça ?
Oh, mais non, mais je viens de nulle part. Je viens de nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos vies, on a plein d'itinéraires. Et c'est vrai que j'ai passé à un moment donné dans le cirque, par hasard, et j'ai été directeur de la programmation, qui fait une grande différence entre directeur du RCQ et directeur de la programmation. Un directeur de la programmation, ça veut dire que tu programmes. Ça veut dire que tu as des choix artistiques, ça veut dire que tu te déplaces beaucoup, ça veut dire qu'en fait le cirque, si tu regardes le cirque, j'ai dit, de directeur de la programmation à la TOHU, qui est une, on va dire, une structure qui était plus que novatrice. Donc, c'est une grande différence, direction de la programmation, puis directeur d'un regroupement. Mais je ne programme pas et je n'ai pas d'avis artistique à donner sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Mais par contre, quand j'étais directeur de la programmation, j'étais très impliqué dans l'équivalent de ce qu'on peut appeler le RCQ, mais pour le cirque. Ça s'appelait En Piste. Et donc, j'étais très impliqué et donc j'ai pu voir en fait tout le développement disciplinaire du cirque qui fait en sorte que j'ai un petit peu exporté ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, mais au niveau du RCQ. Voilà.
En France, il y a eu un truc, je ne sais pas si c'est comme ça ici aussi, avec le cirque, qui pendant tout un temps était considéré comme un truc vraiment ringard. Vieillot, ringard et tout ça. Et tout d'un coup, il y a eu ce qu'on a appelé le nouveau cirque, qui est venu apporter de l'air, faire autre chose. Et ça a été comme ça ici aussi.
Ben. Le renouveau du cirque est parti beaucoup du Québec. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Entretien avec Mo Carpels, directeur du regroupement du Conte au Québec.
Si tu regardes en Europe, en fait, on avait le cirque traditionnel. Mais le renouveau du cirque, c'est la liberté, comment il s'appelle qui a fondé le Cirque du Soleil, et après on a vu émerger plein de plusieurs compagnies et qui ont influencé. Aujourd'hui on a une des meilleures écoles nationales de cirque à Montréal. Donc en fait le renouveau du cirque, il a été vraiment initié par le Québec.
Et donc après, toi, tu pars de là et tu arrives du côté du Conte. Comment c'est arrivé ça? Par hasard?
Ouais, mais, tu sais, la vie, c'est toujours du hasard. Hein, c'est des rencontres. Et est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit, un jour, je serai directeur général du RCQ? Jamais de la vie. Et le hasard fait que... On a fait appel à moi pour différentes compétences que j'ai, puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, il y a un poste qui est en train de s'ouvrir, et moi je dis, je ne connais rien en compte, tu vois. Est-ce que j'ai une compétence en compte? Non. J'ai une compétence en organisation et en termes de développement disciplinaire, c'est une énorme différence. Le RCQ, c'est d'abord se dire que il faut une force représentative. Si tu regardes le Conte, c'est que des gens éparpillés, les conteurs, les conteuses. Et donc le RCQ est comme un petit peu le porte-voix, la parole d'une discipline par rapport à différentes structures. Et le RCQ, ça sert à ça. À faire reconnaître, par exemple, je te donne un exemple. Tous les bailleurs de fonds, il y avait, au niveau des disciplines, c'était cirque, danse, musique, littérature, théâtre, etc. Et un des travaux du RCQ, c'est de dire qu'en fait, on ne peut pas être sous le chapeau de la littérature. Et aujourd'hui, tu as tous les bailleurs de fonds qui font littérature et conte. Tu vois, donc, c'est ça le travail, c'est un travail structurant.
Et donc ça regroupe à la fois des individus, des artistes et aussi des structures.
Oui.
Avec Mo Carpels et Karine Mazel, on parle du regroupement du Conte au Québec qui fête ses 20 ans et qui, à cette occasion, organise un colloque. Il faut raconter ici que, quelques mois plus tôt, le conteur slammer Franck Sylvestre, pour son spectacle, avait créé une marionnette caricature de lui-même. Et cette caricature, parce que l'artiste est noir, avait déclenché un fameux scandale. Alors, Mo Carpels avait eu une idée pour brasser toutes ces questions.
Donc, monsieur Mo Carpels, reprenons.
J'ai été interpellé par Karine, qui me dit, c'est quoi la position du RCQ?
par rapport à cette à ce tollé qui avait eu voilà. lieu.
Qui a été vraiment un raz-de-marée.
Redis-moi voilà. comment s'appelle l'artiste en question.
Franck Sylvestre.
Franck Sylvestre.
Et je lui ai dit, le RCQ ne réagit pas. C'est extrêmement sensible. L'interculturel, l'autochtonie, etc.
Ah ben on a cru comprendre.
Voilà. Et donc, tu ne peux pas réagir de manière émotive. Mais, j'ai entendu la conférence de Karine. Et je me suis dit que ça pourrait être une porte ouverte à une réponse pas directe, pas frontale, et une réflexion globale sur plein de choses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un colloque. Donc, voilà. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui, ici et maintenant, invité toi-même d'ailleurs, Karine et plusieurs intervenants qui viennent en fait d'une certaine manière amener un éclairage, amener une ouverture et des réflexions sur différentes problématiques ici et maintenant. Voilà.
C'est important qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur.
C'est toujours important, on est toujours nourri par des regards extérieurs qui sont hors frontières culturelles et donc d'une certaine manière permettent de regarder les mêmes événements ou d'autres événements et mettre des éclairages et c'est l'enrichissement. On ne peut pas fonctionner en circuit fermé, c'est pas possible. Voilà. Et donc, dès qu'on a la possibilité d'être interpellé par des questionnements dont on n'a pas l'habitude d'entendre, ben c'est ça qui vient faire la richesse. Voilà. Juste ça. Hein.
On est allés toutes les deux au cinéma hier voir un film qui s'appelle Testament. Et qui on a réalisé ce qu'on ne savait pas vraiment avant d'arriver, à quel point il y a des vraies souffrances et des vraies susceptibilités. Et c'est toutes ces questions sont super délicates.
Donc tu parles de questions, tu parles en fait de la relation colon et autochtone.
Colon et autochtone, ouais. Voilà.
Et donc, ça faisait reflet un petit peu avec l'histoire qu'on a vécue avec Franck. Et c'était la même chose. Donc, c'est vrai que Testament, c'est comme un regard, en fait, assez lucide sur aujourd'hui, ici et maintenant, sur les blocages de la communication par rapport aux problématiques que vit le Québec, mais vécu un petit peu partout. Hein, on a en concentré autochtones, on a l'intégration homme-femme, la pensée positive, l'environnement, etc. Et donc, tu te retrouves dans un carré béni ou pas béni, mais dans lequel tout le monde fonctionne ou dysfonctionne et doit composer avec ça. Le bon langage, la bonne parole, les bonnes... voilà. J'espère que tu as...
Quand tu es artiste, c'est redoutable. La peur du conflit, ça vient du coup empêcher... empêcher que les questions soient débattues et que...
Ben, les paroles ou des questions ou des idées, c'est des germes. C'est des germes qu'on met dans la terre, dans la tête, et qui font en sorte que on a la capacité après de regarder le même problème, mais enrichi. Qu'est-ce qui peut nous faire réfléchir mieux ? Voilà. Et Alors, il y a des gens au Québec là, qui sont tout à fait capables de nous faire réfléchir, mais c'est toujours aussi intéressant d'ouvrir les portes sur l'extérieur. Si on avait des gens d'Amérique du Sud, si on avait des gens d'Europe, si on avait des... Il n'y a aucun problème. C'est parce que c'est toujours des éclairages différents. Des éclairages différents. Et puis c'est ça qui nous enrichit. Parce que quand on vit quelquefois dans un... On va dire dans un environnement fermé, on a cette capacité à aller chercher l'assentiment des uns et des autres et qui pensent comme nous. Et je crois qu'en fait, moi je parle pas de conflit, mais on a besoin d'être confronté dans nos convictions pour les réajuster, les affirmer ou les confirmer.
C'est pas pour dire. Dans cette conversation entre plat et dessert, Mo Carpez témoigne du travail considérable qui a été fait au Québec par rapport à la reconnaissance et à la prise en compte des spécificités de la discipline du conte.
Qu'est-ce que tu dirais si tu avais un vœu pour cette discipline-là ? Qu'est-ce que ça serait quoi ?
J'ai pas de vœu parce que... Mais je n'aime pas être enfermé en disant le conte c'est ça, etc. Et si on est capable d'affirmer que le conte c'est des plus et des plus et des plus et des plus, ben c'est un petit peu ça. Mais il faut être fort pour être capable de s'assumer. Il faut, même dans une discipline qui est petite, il faut assumer ses marginalités. Et les affirmer, les assumer, et qui fait qu'en fait, la discipline devient forte.
Le conte, pardon, c'est juste une parenthèse, le conte est donc au Québec reconnu comme une discipline à part entière ?
Oui.
Et donc financé à ce
oui.
titre-là ?
Oui.
Pas comme un sous-littérature ou sous-théâtre.
C'était un travail qui a été extrêmement long, dont j'ai absolument pas participé. Hein. Je suis arrivé, ouais. J'ai été dépositaire de ce travail, et qui fait que tous les bailleurs de fonds, on a trois bailleurs de fonds. On a le CALC, le ministère de la Culture. On a
CALC, c'est quoi ?
CALC, Conseil des Arts et des Lettres du Québec.
D'accord.
Le CAC, Conseil des Arts et du Canada. En fait, il y a trois paliers, hein, le municipal, le provincial et le fédéral. Et moi, quand je suis arrivé, ce travail invisible qui a exigé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de mes prédécesseurs et qui a fait que le CALC le RCQ a permis de donner un coup de couteau sur cette filiation ou ce parrainage littérature et conte. Donc en fait, aujourd'hui, dans tous les bailleurs de fonds, il y a littérature et conte en maintenant que le conte n'est pas de la littérature, ou de la littérature orale, pas que, voilà. Voilà. Donc, un regroupement, c'est ça. C'est-à-dire qu'individuellement, il n'y a aucun conteur qui peut faire ça.
Hein?
Individuellement, ben, tu dis, ben, c'est ça la réalité. Le RCQ, ça veut dire que tu te retrouves avec des membres qui payent une cotisation, qui se demandent en fait grosso modo à quoi ça sert et tout le truc, mais ça sert à être un porte-parole d'une discipline. Et actuellement beaucoup de gains sont faits, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains en termes de reconnaissance. Alors on s'est battu évidemment de quelques années parce que les membres du jury étaient des membres issus de la littérature. Donc, on peut aller à la ditaratata. Ça se peut pas. Tu peux pas évaluer des demandes de subvention par rapport à une discipline qui est spécifique, qui est le conte. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des pairs qui sont...
Qui savent de quoi on parle.
Voilà. Tu vois, donc, tout ce travail d'un regroupement, c'est ça. C'est de dire, on tire les sonnettes d'alarme et puis qui vont faire en sorte que tu te retrouves avec des mécanismes structurants pour la discipline. Et ça, tu ne pourras jamais revenir en arrière, c'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible. Ce serait pas possible. Aujourd'hui, par exemple, je vois au niveau de la culture au Québec, il y a eu tout un travail de sensibilisation qui a fait que les budgets, que ce soit du CAD, du CAM ou du CAC, ont augmenté culturels. Et donc, le paradoxe, c'est que avant, ils n'augmentaient pas. Ça veut dire que tu avais, on va dire, une tarte, et c'était les mêmes qui avaient la subvention. Et l'augmentation n'a pas permis à ceux qui étaient dans la tarte d'augmenter. Non. Et a permis en fait d'intégrer beaucoup plus de. Et ça c'est magique, mais c'est tout un travail de d'abord un travail de regroupement disciplinaire, mais en même temps on se réunit tous, CQM, CQT, ANPIS, etc., pour faire pression auprès des pouvoirs publics de façon à ce qu'il y ait une augmentation des budgets au niveau de la culture. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait la même chose en France, mais c'est...
Voilà. Ah bah pas du tout. C'est un sacré boulot que vous faites.
À qui tu parles ?
Je dis vous parce que t'es pas tout seul au RCQ.
J'aime le développement, voilà. Je suis pas sûr que la charge de travail correspondrait en termes d'attente à beaucoup de gens. C'est énorme. Mais moi j'aime ça.
Qu'est-ce que c'est qui te mène là-dedans ? Qu'est-ce que c'est qui fait que t'es là ? C'est quoi qui te mène là-dedans ?
Ce qui a motivé que je sois là, ouais, d'une certaine manière, c'est que quand je suis arrivé au Québec, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu vraiment tellement d'opportunités. Et il arrive un moment donné où tu as envie de redonner.
Ah, c'est ça ?
Oui, absolument. Et en tout cas, le RCQ, c'est vrai que... Je veux que ça bouge, et puis avec toutes les limites hein, de ça, mais on a fait beaucoup de gains, on a fait beaucoup de... Ouais,
et ça, quand tu dis, quand tu t'as dit, quand je suis arrivée au Québec, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai reçu beaucoup, t'es pas né ici, toi, t'es pas...
Non.
T'arrives d'où ?
J'ai décidé d'émigrer à cause d'une peine d'amour, et... j'étais à Biarritz, je suis Biarritz.
T'as fait ton enfance à Biarritz.
Ouais, j'ai vécu à Biarritz, et puis peine d'amour a fait que, à un moment donné, je me suis dit...
Il faut un océan.
Non, parce que c'était pas rassurant, elle était comme... J'ai vécu tellement de belles choses avec elle, et puis que je revois... À chaque fois que je viens en France, tu vois. Mais tu as des relations amoureuses et après tu as des relations d'amitié amoureuse, hein, avec tout un bagage. Mais ça fait une grande différence. Et on était arrivé un petit peu au bout de notre relation amoureuse. On s'est construit tous les deux, on s'est. Et il y a eu une séparation, puis. Je me suis dit, il faudrait, comme je ne parle pas un mot d'anglais, j'ai regardé les endroits où je pourrais aller, tu vois.
Et, ça veut dire que tu arrives au Québec, tu as quoi ? Tu as 20 ans ? Non,
t'es gentil, mais non, j'ai un peu plus. J'ai 30 ans, 32 ans.
Et tu quand tu dis, je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de chance, ça veut dire que ça a commencé comment ?
Non, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord parce que j'ai pas eu besoin de travailler tout de suite. J'avais un petit peu d'argent, ce qui fait que pendant un an ou deux ans, j'ai pu être comme une éponge, m'absorber un petit peu. Entre la différence de dire on parle français et puis d'arriver à comprendre un petit peu comment le Québec ou les Québécois, les Québécoises fonctionnaient ou dysfonctionnaient en termes de valeurs, en termes de fonctionnement. Pas parce que tu parles la même langue que bah, tu comprends. Voilà. Et donc, au bout d'un an ou deux, voilà, c'est ça.
Et tu débarquais, toi, déjà avec un bagage en France, tu travaillais déjà dans quelque chose qui avait un rapport avec les arts, le spectacle vivant ou t'as carrément changé ça?
Non, je ne raconterai pas ma vie. Parce qu'à 17 ans, j'ai décidé de ne plus la raconter. Mais juste une anecdote, à 17 ans, je jouais à un café théâtre qui s'appelait les Pinéclés Superstars à Bordeaux. Et ma première, ça a été d'accueillir Brigitte Fontaine à Reski. Et voilà.
Ah oui, quand même.
Et j'avais 17 ans.
T'as ouvert un café théâtre à 17 ans?
Oui, à 17 ans. Non, je raconte pas ma vie.
Non.
On se calme les miches. Et donc, quand j'arrive, je passe peut-être 2 ans de ma vie à rencontrer du monde, à absorber comme une éponge un petit peu toutes les nuances de ce qu'est la communication ou les différences, et j'ai note, et puis elles font partie intégrante. Voilà. Puis après, je me suis dit, ben, ce serait peut-être bien que tu commences à envisager de travailler. Et je me suis dit ça, puis une semaine plus tard, je rencontre quelqu'un, et je suis dans un bar, quelqu'une, puis elle dit, ah ben écoute, on cherche quelqu'un comme toi. Mais moi, je me vends pas, hein, je Et puis là, je suis devenu directeur général d'un festival qui s'appelait le Festival Création Jeunesse. Et donc, c'est que des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Et théâtre, danse, musique, peinture, tout.
Ici à Montréal.
À Montréal, ouais. Et c'est une aventure merveilleuse en termes de créativité, en termes de plein de choses, tu vois. Et puis ça a été un festival qui était à la grandeur du Québec, tu vois. Donc en fait, enfin, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, parce que je ne raconte pas mes affaires normalement, alors voilà. Non mais c'est vrai, c'est comme des
avances. Pourquoi tu le racontes, pourquoi je t'ai posé la question, c'est parce que tu dis, il y a un moment où je me suis, où j'ai eu envie de redonner quelque chose.
Ah ben oui, mais voilà, ça c'est pareil, cette rencontre avec le festival, après j'ai eu plein de rencontres hein, différentes, et à mon avis je me dis que, par exemple, si je regarde par rapport à la France, je ne suis pas sûr que les choses se passeraient de la même manière. Et cette opportunité et cette facilité qu'on a en termes de rencontres, pas sûr que c'est la même chose. C'est la même chose en France. J'ai été directeur d'un festival qui s'appelle le festival Vue sur la Relève, là c'est 18-35 ans. Et à un moment donné, 4 ans, 5 ans, là je deviens un gestionnaire. Ça m'intéresse.
Tu commences à t'ennuyer.
Et là, ce que je fais, je te raconte, comme quoi la vie est drôle. Après, tu sais pas ce que tu sais, mais tu sais pas ce que tu es. Tu sais pas. Moi, je gère pas. Et je pars du festival, mais j'ai absolument aucun plan. J'ai juste un plan, c'est de dire que je suis tanné et que je vais aller dans. J'ai loué un chalet à Charlevoix, la Baie-Saint-Paul, et là je l'ai loué pour 1 mois, 2 mois, puis je veux dire, là je vais me faire un petit peu une idée de ce que j'ai envie ou pas envie. Écoute, je n'ai donné mon téléphone à personne, si j'avais besoin d'être tout seul. Écoute, à un moment donné, 15 jours, 3 semaines plus tard, j'ai le téléphone qui sonne, c'est une grosse surprise pour moi, hein. Je prends le téléphone, Imo Carpels, oui. Oui, bonjour, ici c'est Charles-Mathieu Brunel. Je suis le directeur général de la TOU. J'aimerais ça qu'on se rencontre. J'ai dit, ben, pas de problème, on va se rencontrer. Et je n'ai jamais su, j'ai jamais demandé à Charles comment il avait eu mon téléphone, comment il avait eu un truc et pourquoi il s'était adressé à moi, tu vois. Alors, la vie est belle, tu vois.
La tête en l'air.
Voilà. Donc, tous ces cadeaux que j'ai eus, d'une certaine manière, en fait, tu as envie de les redonner. Tu vois, t'es pas un voleur, hein, t'es pas, voilà, tu sais pas les cadeaux que tu peux faire ou n'importe quoi, mais au moins tu restes actif et t'as été chercher de l'amour, de la confiance, de plein de choses. Comment tu peux le redonner? Ben, il faut que tu le redonnes, il faut que tu te laisses un espace pour le redonner. Pour redonner, il faut avoir aussi un espace de pouvoir.
Dans cet espace-là, tu...
Et je l'ai, le pouvoir. Je l'ai, le pouvoir. Ça veut dire qu'il est limité, parce que je ne peux pas te dire un tel ou tel truc, voilà. Mais c'est pas... c'est vrai, on n'est pas dans copain coquin, tu vois. On est dans une redistribution de valeurs, de visions, de regards, voilà. C'est ça que tu peux redonner. Voilà. Ainsi parlait Zarathoustra.
Merci, moi.
C'est bien parce que je voyais pas de lumière rouge, c'est comme si je parlais entre nous, là.
C'est le cas. En même temps.
J'ai oublié, je parlais comme je parle. Ouais. Ouais. Ça te permettra, sur les 27 minutes, de récupérer 1 minute et 12.
C'est ça. Je l'éteins, hein. Vous êtes d'accord?
Ah, mais t'avais pas éteint.
C'est avec la chanteuse Suzy Leblanc que nous prenons congé de Mo Carpes, directeur du RCQ. Vous pouvez découvrir les interventions que Karine Mazel et Anne Galgo-Duchaud ont fait le lendemain à la Bibliothèque nationale de Montréal sur la chaîne YouTube de Karine Mazel. Demain de ce colloque, il y eut une fête boulevard Saint-Laurent à Montréal pour les 20 ans du RCQ, des discussions, des tables rondes, des ateliers et pour nous, des rencontres. Ici, c'est avec Evelyne Ménard, Angel repartit pour la France et c'est Karine qui tient le micro.
Alors, bonjour Evelyne Ménard.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal et il y a les 20 ans du réseau, non, du rassemblement des conteurs du Québec, c'est ça?
Oui.
Et c'est dans ce contexte que, avec
le regroupement du conte au Québec.
Regroupement du conte au Québec. Et donc, hier, il y avait des ateliers et avec Anne-Gaëlle Gauduchot et moi-même, nous discutions avec des conteuses qui étaient là. Et puis, il y en a une qui a dit « Ah, moi, je raconte pas trop des contes traditionnels du Québec parce que les histoires de bonhommes, de bûcherons, je m'y retrouve pas. » Et alors là, on a vu avec Anne-Gaëlle Evelyne se lever tout droit pour dire quelque chose concernant cette vision peut-être un peu stéréotypée du répertoire ou méconnue. Et c'est là qu'on s'est dit avec Anne-Gaëlle, ah, voilà quelqu'un qui fait un travail de recherche sur le répertoire. Et nous voilà dans la cuisine d'un appartement montréalais pour discuter de ton parcours et de tes travaux de recherche. Et alors, je me suis dit qu'effectivement, ce serait intéressant, avant que tu ailles plus précisément sur les travaux de recherche que tu fais sur les contes traditionnels québécois ou canadiens, tu préciseras ça, que tu te dises un petit peu ton parcours et ta relation à la tradition orale, aux contes.
Ben oui, en fait, moi, je célèbre mes 25 ans de carrière de conteuse cette année. Donc, j'ai fait partie de la vague des Dimanches du conte, qui sont un peu à l'origine du renouveau du conte, il y a 25 ans. Donc, arrivé avec une vision plus scénique, avec une transmission qui n'est pas dans nos familles, en fait, ou même aussi avec la création des contes. Donc, et c'était vraiment de l'exploration. Il y a 25 ans, on se retrouvait... avec des soirées interminables où on racontait, le public nous suivait parce que lui aussi, il découvrait. Donc, c'était vraiment... il y avait une effervescence dans ce mouvement-là. Puis après, ben, justement, il y a eu plein de gens qui ont fait chacun leur route avec différents chemins dans l'univers du conte. Et puis, donc oui, c'est ça, j'étais dans cette effervescence-là. Puis, mais rapidement, quand même, moi, ça m'est venu par la musique traditionnelle, en fait. Le fait de... quand j'avais 18 ans, je suis partie avec un sac à dos en me disant, je vais découvrir... Oups, oui. Donc, quand j'avais 18 ans, je suis partie... un peu à la découverte du monde. Puis quand j'ai voyagé 7-8 mois en Europe et j'ai rencontré des gens qui me disaient « Ah, ben ça, c'est un dessert polonais, nous, on va faire un petit plat ou c'est un fromage de ma région. » Puis quand je suis venue, je me suis vraiment mis à chercher qu'est-ce que c'était, parce que, tu sais, qu'est-ce que c'était pour... qu'est-ce qu'il y avait que de typiquement québécois que moi, j'en avais même pas conscience que je faisais... inconsciemment et que je pourrais partager avec d'autres gens de d'autres pays. Donc c'est un peu comme ça, moi j'étudie en musique classique, puis là j'ai découvert la musique traditionnelle et ensuite, et par la musique traditionnelle, le conte. Donc évidemment, même quand je suis arrivée dans les contes, c'était plus les contes de tradition orale là, qui m'intéressaient, qui m'intriguaient. Puis, ben évidemment, en 25 ans, il y a eu plusieurs façons là, de les raconter ou de les vivre ou plusieurs réflexions à travers ça. Là.
Et les contes de tradition orale dont tu parles, il y a 25 ans, comment y avais-tu accès? Parce qu'au Québec, est-ce que la tradition orale a été interrompue? Est-ce qu'il y a eu des collecteurs? Quand on était néo-conteuse, comme tu l'étais il y a presque 30 ans, il y a 25 ans, quel accès avais-tu à cette tradition orale?
Ben en fait, dans le milieu du néo-conte, il y avait quelque chose... j'entendais beaucoup, c'est terminé, ça n'existe pas. Je suis allée par les archives. J'aimais ça. Ça, c'est un petit peu le côté chercheur que j'ai hérité de mon père. Là. Donc, j'hésitais pas à aller aux archives, dans les livres qui avaient été... de Marius Barbeau, un de mes premiers contes. Donc Marius Barbeau, c'est un des premiers collecteurs. Et puis même lui, et puis ça c'est tellement québécois des fois. Je... Donc lui, c'est un des premiers chercheurs là, dans les années 30-40 au Québec. Et comment il a découvert les contes et les traditions de sa famille, c'est en allant étudier aux États-Unis sur des communautés autochtones. Et là, il est revenu puis il s'est dit « Ah, dans mon village, il a, t'sais, avec son regard d'ethnologue, il a pu ensuite remarquer qu'il y avait des trucs chez lui. » Puis ça, je dis que c'est typiquement québécois parce qu'on valorise peu t'sais, ce qu'on est comme nous. Comme on est quand même... Il y a un volet... On est à la fois colonisateur du territoire, mais on a été colonisé aussi. Puis il y a cette pensée-là qui est là. Et moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens le fait de ne pas valoriser, de pas prêter même attention à la tradition, à ce qui a pu être là avant nous, ou même comme nous, comme Québécois. Il y en a beaucoup qui disent oh, « il n'y a pas de culture, on préfère, on va aller écouter les chanteurs, soit en anglais, États-Unis, Angleterre, tout ça, ou en langue française, on se retourne vers la France. » Il y a quelque chose qui est bouillonnant ici, il y a tellement de créateurs, puis c'est vraiment souvent même, en tout cas en musique traditionnelle, c'est clair qu'on s'exporte pour réussir à vivre de ça, parce qu'ici, c'est comme, c'est le vieux grand-père, puis c'est ringard, puis donc c'est un peu plein de stéréotypes comme ça aussi, là, que quand on s'intéresse à ce type d'histoire-là, on a à se confronter. Puis en même temps, ben moi, ça me fait plus peur. Là, après 25 ans, je veux dire, il y a vraiment une affirmation qui est claire pour moi que c'est ce type de récit-là qui m'intéresse. Autant dans la création, donc dans l'idée que ça peut être un matériau de base que je... Puis moi, je prends plaisir à le mélanger avec d'autres formes d'art, à aller chercher. J'avais travaillé avec une... Donc, pour faire une installation, pour créer une intimité qu'on va retrouver dans le conte. Donc, c'était avec une vannière. Donc, elle avait fait une installation en vannerie, puis on pouvait rentrer à 6-8 à l'intérieur, entendre une histoire, puis avoir l'intimité du conte. Donc, en musique contemporaine aussi, là, je m'en vais vers la réalité augmentée, en tout cas. C'est vraiment mon matériau de base. Donc, ça, c'est comme mon volet création. Puis, j'ai quand même un volet transmission, que je trouve vraiment intéressante. Intéressant aussi, en fait, parce que ça me confirme la valeur puis l'importance de ce type d'histoire-là. Donc, le volet transmission, en fait, on a ici un programme dans les écoles où on peut faire des résidences. Donc, on peut être dans une école avec les enfants entre de 10 à 12 semaines. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai... créer comme un atelier résidence de transmission de contes. Donc, c'est parti, en fait. D'abord, j'avais travaillé là-dessus avec Isabelle Crépeau, qui est une conteuse aussi québécoise de la région de la Naudière. Et en fait, on a eu accès dans la région parce que les gens ont sorti des archives tout un répertoire d'un monsieur qui s'appelle Adélard Lambert. Puis Adélard Lambert, ben lui, il est né à Saint-Cuthbert en 1898. Puis il a vécu jusqu'en 45 à peu près. Puis, il y a eu tout un parcours. Ils sont allés vivre aux États-Unis, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de Canadiens français, comme il disait à l'époque, qui... c'était une immigration vraiment économique. Comme il y en a encore maintenant, nous, c'est les Mexicains qui viennent travailler ici, mais il y a une époque où c'était les Canadiens français qui allaient travailler aux États-Unis dans les shops de textiles, les usines de textiles. Il y en avait ici, mais ils étaient plus payés s'ils allaient là-bas. Donc, il y a eu vraiment une migration, il y a eu des endroits où c'était... il y a vraiment eu des villages francophones, des journaux d'ici qui étaient envoyés là-bas, donc... Et puis lui, ses parents sont partis, il les a suivis. Puis, pour tenir le tissu familial la peur, en fait, de la violence extérieure, sa mère leur racontait les histoires qu'elle avait entendues petites dans la région autour de Saint-Cuthbert, tout ça. Puis, il y avait un autre monsieur. Puis, et lui, il a eu la, l'intérêt, hein, de, parce qu'il y en a plein de gens là, qui ont reçu ces histoires-là, mais lui, il a voulu vraiment les collecter à une époque où ça n'existait presque pas encore. Et je vous ai parlé de Marius Barbeau tout à l'heure, mais c'était un informateur de Marius Barbeau. Donc, il lui envoyait des textes. Il envoyait... et Marius Barbeau lui envoyait des rouleaux. C'est à l'époque où on enregistrait sur les rouleaux. Donc, ils ont eu une correspondance comme ça. Puis, dans plusieurs livres de Marius Barbeau, il y a des contes d'Adélard Lambert. Donc, nous, on a... ben, en fait, dans la région, ils ont sorti les archives pour les rendre à la région. Puis, on avait fait un travail avec Isabelle Crépeau pour créer un outil qui permettrait, en fait, d'enseigner ou d'échanger, de faire découvrir ce répertoire-là aux enfants, qui puissent choisir leur histoire et qui apprennent à les raconter.
Alors, justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le goût? Quel genre d'histoire est-ce que c'est?
Il y a beaucoup d'histoires de petits gens. C'est un personnage qui est quand même assez typique. Et puis un jour, il y a un quêteux qui passe. Les quêteux, ben, c'était les gens qui n'avaient pas vraiment de maison, puis qui allaient d'une maison à l'autre pour travailler un petit peu, puis en échange, ben, ils recevaient de quoi se nourrir. Et puis, ben, en plus, ils amenaient les nouvelles. Et un soir, c'est un quêteux voyageur qui est venu. Un quêteux qui avait été partout dans le monde, qui racontait ses histoires. Ce genre s'est dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que il faut que j'aille découvrir le monde. Fait que le lendemain, ben, il salue ses parents, il se fait un petit sac avec un peu de nourriture. Puis il s'en va dans un petit chemin en arrière de la maison, traverse la forêt. Puis quand il arrive de l'autre côté de la forêt, il voit la mer à perte de vue. Il est ému, il est touché, il se dit, mais je vais aller sur l'eau pour découvrir le monde. Puis comme c'est bien fait d'un conte, il y avait juste en bas du cap un bateau. Puis sur le bateau, il cherchait des matelots. Fait qu'il s'est engagé. Puis le lendemain, il est parti sur l'eau. Pendant un jour, deux jours, une semaine, il avait perdu le compte des jours. Tout allait bien jusqu'au jour où tout a arrêté d'aller bien. Il y a eu une grosse tempête dans le ciel, il s'est mis à faire noir, puis là, il y avait des éclairs, et puis vraiment, le bateau tanguait d'un côté, puis de l'autre, puis à un moment donné, crac! Il a cassé, puis il est tombé au fond de la mer. Tijan, il a juste eu le temps de se prendre quelques planches, de se faire un radeau, puis il a commencé à dériver sur l'eau. Pendant une journée, deux jours, une semaine, il ne savait plus. Mais plus ça allait, plus il se sentait faible, il était fatigué, il avait faim. Il s'est dit, c'est pas vrai, je vais pas mourir ici, là, dans le milieu de l'eau. Il essaie d'avancer encore un peu, puis tout d'un coup, il voit une île. Tout content, il avance avec ses bras, il rame comme il peut, puis il s'arrête sur l'île. Là, il voit un pommier. Le pommier, il était rempli de pommes, puis lui, son fruit préféré, c'était les pommes. Fait que tout content, il monte dans l'arbre, il mange une pomme, il croque. C'était bon, c'était sucré. Mais à ce moment-là, son nez a allongé jusqu'au menton. Il avait faim, il s'en rend pas compte. En mange encore une autre, son nez allonge jusqu'aux épaules. Encore un, son nez jusqu'au nombril. Encore une pomme, jusqu'au genou. Il y avait encore un petit creux, son nez allonge jusqu'au... Là, il se voit. Arc! Son nez long comme une trompe d'éléphant. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait qu'il descend du pommier. Il prend son nez, il descend son nez du pommier. Puis là, il commence à avancer en traînant les pieds. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis tout d'un coup, il voit un parterre de fleurs. Il se dit, à longueur de nez que j'ai, je vais bien pouvoir sentir les fleurs. Fait qu'il s'approche, il respire. Puis son nez rapetisse jusqu'au genou. Il sent encore les fleurs. Son nez rapetisse jusqu'au nombril. Il se met à quatre pattes d'un fleur. Il respire. Et son nez devient normal dans son visage. Il se dit, oh. Là, je me sens mieux. Je suis redevenu normal. Il voit autour, il se dit, oh, je vais partir à la découverte de l'île. Il prend des pommes, il prend des fleurs, il se dit, ça peut être bon pour l'histoire. Puis il s'en va. Puis là, en marchant sur l'île, ben, il découvre qu'il y a un grand château. Puis que ce jour-là, c'est le jour du marché. Ben, il se dit, pourquoi je vendrais pas mes pommes? Fait qu'il s'installe une petite table, il met les pommes dessus, puis il se met à chanter. Je suis celui qui vend tout, j'ai sûrement quelque chose pour vous. Je suis celui qui vend tout, j'ai sûrement quelque chose pour vous. La princesse, elle entend ça. Elle voit les belles pommes sur la table de Tigeant. Puis son fruit préféré, c'est les pommes. Ben, elle dit à son serviteur, va m'en chercher, va m'en chercher. Alors, il va chercher 3 belles pommes. Puis elle en mange une à la croque. C'est bon, c'est sucré. Son nez allonge jusqu'au menton. Mais elle avait faim, c'était vraiment son fruit préféré. C'est rare qu'il y en avait sur l'île. Elle en mange une deuxième. Son nez allonge jusqu'aux épaules. Vraiment, c'était vraiment rare. Elle en mange une troisième. Puis son nez allonge jusqu'au nombril. Puis là, elle se voit. Arc! C'est pas un nez de princesse, ça? Elle va se cacher dans son château. Puis il en met un grand foulard autour de son nez. Puis elle veut pas que personne vienne la voir. Fin de la journée, le roi, son père, se demande qu'est-ce qu'elle a, sa fille. Il se dit, ben voyons, ça doit pas être si pire que ça. Fait qu'il entre dans la chambre, puis il lui demande ce qui arrive. Ben là, elle accepte d'enlever son foulard. Puis là, il la voit. Ouais, c'était si pire que ça. Mais inquiète-toi pas, on va trouver un médecin, un guérisseur, on va t'arranger ça. Le soir passe, la nuit, le lendemain. Jean, il se met une espèce de chemise blanche, une petite valise de docteur, puis il passe en dessous des fenêtres du château en chantant. Je suis le docteur guéritout qui a un remède pour tout. Je suis le docteur guéritout qui a un remède pour tout. Le roi, il entend ça. Il sort du château. Monsieur, monsieur, faut que vous veniez, faut que vous entendiez, que vous voyez ma fille. Il entre dans la chambre. Il fait sortir tout le monde. Elle accepte d'enlever son foulard. Puis là, Tigeant, il donne un bouquet de fleurs. Elle regarde. Elle trouve pas ça drôle. Bon, c'est là, on donne des fleurs aux princesses, là. C'est pas ça qu'elle veut, elle. Elle veut que son nez devienne normal dans son visage. Tigeant dit, mais oui, justement, là, sentez les fleurs. Princesse, elle prend le bouquet, elle sent les fleurs. Elle voit son nez qui ratisse jusqu'aux épaules. Elle respire encore, puis son nez qui redevient normal dans son visage. Elle est soulagée, elle est contente. Puis là, comme elle n'a plus de problème, ben, elle est capable de voir ce qu'il y a autour. Elle regarde Tigeant. Elle trouve pas mal de son goût. Tigeant, lui, est déjà en amour avec la princesse. Eh bien, ces deux-là se marient. Ils ont de 50 à 75 enfants. Ils trouvent des noms pour toutes. Puis c'est tout.
Merci beaucoup.
C'est pas pour dire, entretien à Montréal avec Evelyne Ménard.
Et ça me fait penser, là, pendant le colloque qu'on a eu hier, il y avait François Lavallée qui racontait un petit peu l'histoire du renouveau du conte. Puis il disait... Voilà, on a les conteurs de cuisine, puis les conteurs de scène. Donc là, on a raconté ce conte dans la manière la plus simple, la plus noble peut-être, ou la plus modeste, et les deux ensemble. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ces différents lieux et aux différentes esthétiques que ça implique?
Pour moi, il y a une grande importance dans le répertoire du conte de tradition orale. Pour moi, ça, c'est clair. Puis, il y a... je sais qu'au début, j'essayais même, tu sais, je copiais presque ce que j'entendais dans une archive ou des expressions que j'aimais beaucoup. Puis, j'étais vraiment comme... Je voulais être dans ce cheminement de transmission-là. Puis en même temps, ben, on est moderne, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas entendu d'histoire de mon père, des blagues de mon grand-père, mais c'est tout. Donc tu sais, il y a un côté modernité aussi, qui comme en fait me permet d'être une artiste qui touche le conte de tradition orale. Donc, je peux, et je le fais, choisir parfois de faire une création qui va se retrouver sur scène, qui va, ou avec d'autres médiums que le conte, comme, comme ce que j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, de, d'une installation avec de la vannerie ou de musique contemporaine sur mes contes ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, de faire un travail de transmission qui, là, s'adresse essentiellement aux enfants et qui est dans, cette, dans la mouvance plus du conte traditionnel. Et j'étais pas là, mais j'ai entendu, j'ai, t'sais, le fait que aussi, ce que moi j'aime bien, c'est de ne pas faire le choix,
et oui,
de faire qu'une chose, en fait. Des fois, ce que je trouve un peu dommage, c'est que il faut envelopper le conte traditionnel pour avoir de la place sur scène. Ça, moi je le sais que ça fonctionne, puis que je pourrais raconter ces histoires-là, puis je le fais, t'sais, de le faire. Puis que de partir avec des histoires, avec rien autour que l'imaginaire. Mais pour un diffuseur, c'est risqué, c'est pas connu. Après, ben c'est ça, j'ai aussi la chance d'être dans le réseau Circuit Parole Vivante, qui est comme un accompagnement, un soutien pour pousser un spectacle sur les grandes scènes. Donc, je suis vraiment dans des extrémités, mais c'est possible.
Voilà. Oui, alors pour les auditeurs nantais, nantaises et auditeurs du podcast, le réseau Parole Vivante a été créé par le Regroupement des conteurs du Québec pour valoriser les créations plus théâtralisées des conteurs et permettre une diffusion dans des lieux pluridisciplinaires. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire que peut-être que notre manière de penser ce grand écart le renforce. Et que peut-être, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas, tu disais, comment tu as dit, je suis un peu aux deux extrémités. Peut-être qu'en fait, ces extrémités n'existent pas et que c'est notre manière de penser tradition, modernité, cuisine, théâtre, qui crée un imaginaire d'opposition là où la réalité des conteurs et des conteuses au Québec et en France montre que tout ça avance ensemble la majeure partie du temps et que ces oppositions finalement ne sont que des représentations contre lesquelles on pourrait aussi nous-mêmes lutter en disant voilà, ma tradition orale c'est ça et ça.
Oui, absolument. ma pratique de conteuse, clairement.
C'est ça et ça, elles ne s'opposent pas, bien au contraire. Oui, c'est ça, je me dis ça, parce que c'est quand même, on est très nombreux et nombreuses à vivre cette réalité-là. Donc, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Evelyne, et puis bon vent à tes projets, quels qu'ils soient.
Voilà, voilà, c'est la fin de cette émission Outre-Atlantique. Si vous avez aimé, vous pouvez réécouter. C'est sur le site www.cepaspourdire.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission. D'autres émissions à suivre avec nos cousins du Québec, mais en attendant, moi je vous dis ciao.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Beauduchot et présentée par Charles Cécile.
A dream.